suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui au jeudi 30 mai 2024. Il sont 11h passées de quelques instants et vous comprenez sans doute que nous sommes dans le quatrième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitogbe-Koku Tomega est à la mise en onde. Jérôme Akucha sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Niro, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au jeudi. Michel Yao Tzadza est là. Michel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères et puis surtout bonjour Canal FM.
J'espère que tu vas bien. Tu as bien passé la semaine ?
Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, peut aller.
D'accord, par la grâce de Dieu. Je sais que c'est cette grâce que nous implorons chaque jour. Hein, et également, je sais que par la grâce de Dieu, nos amis auditeurs, auditrices aussi vont très bien. Et l'homme, Atisobe, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Canal FM, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Je suis super bien, par la grâce de Dieu.
Tu nous as manqué, hein, puisque ça fait longtemps qu'on n'a plus écouté cette voix.
Oui, les auditeurs m'ont manqué aussi, les confrères également. les techniciens derrière la baie vitrée, ils m'ont tous manqué. Donc, je remercie tous ceux qui, véritablement, ont quand même demandé d'après moi. Et je suis de retour et je pense qu'avec mes confrères, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice.
C'est l'essentiel. Celui qui ne nous a pas manqué, c'est bien Ambroise Kondjo. Ambroise, bonjour.
Oui, Eric, Pascal, bonjour. Bonjour les auditeurs, bonjour les confrères ici présents. J'aimerais d'abord saluer un de mes soutiens finaux. Il va se reconnaître. Il rit beaucoup, donc je le salue.
Et ça fait du bien à l'organisme et à la santé.
Oui, moi j'aime rire. Franchement, j'aime rire.
On en parlait hier.
Elle a mangé quelque chose. J'aime beaucoup rire.
On en parlait hier.
Dans ce pays, le stress, les gens partissent avec les AVC, quoi. Donc il faut rire.
Mais je pense pas
dans ce pays. Sur le panel où on dit rire un peu. Et je ris. Ça, il faut rire. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention des autorités communales de toutes les communes que ces enfants-là qui obstruent nos rues au niveau des feux rouges pour demander de l'argent, machin là. Sincèrement, je ne veux pas être déplaisant, mais il faut les parquer quelque part. C'est-à-dire que il faut. Et ce qui fait mal, c'est que le Togolais en soi-même n'est pas mendiant. Peut-être que c'est les gens qui viennent d'ailleurs, du Ghana ou d'ailleurs, et d'une tendance religieuse, très souvent, qui se comporte comme ça. Je ne sais pas comment on va faire pour régler ça, mais il y a le maire Gomaru, je crois.
Tout à fait.
A commencé ça. Que le maire Abouka, les autres maires aussi, emboîtent le pas. Parce que nous n'allons pas nourrir des gens qui deviennent plus riches que nous.
Mais au Bénin.
Je suis désolé.
Oui, Abraz, au Bénin, tout récemment, c'est Patrice Talon, le président Patrice Talon, qui a pris une décision dans ce sens. Je pense que aussi
j'ai trouvé ça intéressant. Au Ghana, de même, le Ghana, le président Akufo-Addo a pris la même décision. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, il se rabatte ici. Parce qu'il y en a plein maintenant à Lomé. Hein. Et le risque même, c'est que tu les tamponnes, quoi. Parce que des fois, ils s'accrochent même au rétroviseur. Je ne comprends pas. Hier, la dernière fois, j'étais à Balepedo sur le pavé. Et un a tenté d'approcher les vitres d'un monsieur. Il a immédiatement frappé par la main. Parce que on n'est pas, le Togolais n'est pas violent, le Togolais n'est pas méchant et le Togolais n'est pas mendiant. Difficile de voir un Togolais aller taper une porte pour demander à manger, je te jure. Est-ce que tu as une fois vu Togolais comme ça? Maintenant ça devient récurrent. Les Togolais s'efforcent, mais pas jusqu'à ce point à envoyer des enfants, elles-mêmes se trouvent sous les arbres là-bas, elles envoient des enfants pour demander je suis pas d'accord. Quoi.
D'accord, merci.
Donc que les mairies essaient de voir ça.
D'accord. Je pense que le message est passé et c'est à l'endroit des mairies. On t'a compris. Alors, c'est qu'on ferait. Nous allons parler pour déjà commencer cette émission. Nous allons parler de l'électricité. Alors, vous savez très bien que à un moment donné, c'est devenu une denrée rare, en quelque sorte, une denrée rare. Je discutais avec Magula Tinviteko qui n'est pas avec nous ce matin. En fait, leur journal n'est pas sorti aujourd'hui, bien sûr, parce que, alors, depuis hier, dans leur quartier ou le quartier où l'imprimerie se trouve, justement, l'électricité est coupée. Donc, alors, Michel, c'est vrai que depuis le samedi, il y a la ministre de l'énergie et des mines qui a fait une sortie. Et avec cette sortie, elle a donné quand même les quatre raisons qui sous-tendent le délestage que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand vous avez écouté cela, les raisons et tout, est-ce que vous avez été quand même convaincu par rapport à ces raisons données?
Oh, ce n'est pas une affaire d'être convaincu ou pas. C'est beaucoup plus essayer de voir si ce qu'elle a donné comme raison, si ça participe donc à ce que le gouvernement essaie de mettre en tout cas comme information pour permettre aux populations de ne plus regarder de gauche à droite, parce que depuis le début donc de ces délestages là, les gens s'interrogeaient qu'est-ce qui se passe. On avait au début même donné certaines raisons qui ma foi n'ont pas tenu la route pendant longtemps,
parce qu'on parlait de l'endettement
on a écarté la dernière fois. Moi, j'étais pas à la conférence de presse, mais il semble qu'elle a écarté
tout
donc,
à fait
cette voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons une situation et à un moment donné il fallait quand même que les autorités quand même disent quelque chose. C'est ce qu'elle a essayé de dire à la presse, mais maintenant on n'a pas des éléments d'appréciation d'aller vérifier. J'allais dire, on ne peut pas vérifier tout. C'est vrai qu'il y a certaines raisons qu'elle a évoquées qu'on peut déjà prendre en compte, mais il y a d'autres raisons où on n'a pas les moyens de vérifier. Mais on ne peut que faire confiance à notre gouvernement, parce que quand on l'a écouté la dernière fois, l'impression qu'on a, c'est que le gouvernement n'est pas insensible à la situation actuelle. Et donc, notre souhait, c'est que le gouvernement, quand même, mette les bouchées doubles pour trouver rapidement des solutions. Parce que quand je rentrais dans ce studio, ici, c'est un confrère de l'autre radio Taxi FM, qui me faisait signe qu'ils ont une invitée surprise, c'est la société. Ils devaient commencer une émission également à 11h, mais actuellement, ils sont en tout cas au chômage technique parce que la société est arrivée.
Oui, donc, ils ont ciblé cette radio. Hein.
Donc, c'est une manière de vous faire comprendre que c'est un problème qu'on connaît, qui est là, que nous vivons, mais dans tous les cas, c'est que le gouvernement doit aller vite. Parce qu'il y a des soudeurs qui ne vivent que de leur métier, qui sont là. Et quand on coupe sur 8 heures du temps, il n'a rien fait. Alors qu'il a une famille qui doit en tout cas nourrir, qu'est-ce qu'il va faire, tout ça là. Donc ce que nous devons attendre aujourd'hui, c'est que le gouvernement fasse le nécessaire pour que la situation redevienne rapidement à la norme.
Justement, merci beaucoup Michel. Et l'homme, c'est vrai que sur déjà dans la communication alors de la ministre de l'énergie la fois passée, c'est-à-dire le samedi dernier le 25, on l'attendait plus alors sur les dispositions, les mesures qui sont prises par le gouvernement pour que du moins la situation revienne à la normale. Mais finalement, allez, nous n'avons pas retrouvé cela dans ses propos.
Oui, effectivement, on n'a pas véritablement senti les effets ou les mesures à prendre d'urgence pour pallier un tant soit peu aux difficultés en cours. Parce que là, vous savez, ça fait des mois, ça fait longtemps que je dis sur ce plateau que personnellement, je n'ai pas compris pourquoi on a supprimé le ministère de la prospective du gouvernement. Et c'est un portefeuille qu'occupait professeur Kakou Nougoupo. Et ce portefeuille est un portefeuille stratégique dans le gouvernement, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui diriger, même faire un projet sans perspective, sans prospective. Vous ne pouvez pas, parce que aujourd'hui, le Nigeria parle de la réduction de la capacité à donner au Togo à cause de quoi ? Parce que la population s'agrandit.
Mais là, on te dira qu'il y a le ministère, enfin, il y a ce portefeuille également de la planification qui est là.
Oui, la planification est là, mais il faut faire la prospective. En fait, ce n'est pas la même chose. La planification ne veut pas dire la prospective. Non. Parce que la planification prend appui sur la prospective. Quand les prospectivistes finissent le travail, ils passent la main à la planification. Donc, on vous dit que dans 5 ans, 10 ans, nous allons peut-être passer d'une taille de population de temps à temps. Donc, ça, on est dans la prospective. On vous dira que Lomé va s'agrandir plutôt vers l'est, alors que, bon, on voit que, bon, Lomé s'agrandit plutôt vers le nord. On va vous dire, non, dans 5 ans, il y aura plus de population vers l'est qu'à l'ouest du pays. Aujourd'hui, on a vu que la ville de Lomé s'agrandit à une vitesse infernale. Vous avez des gens qui habitent maintenant les quartiers comme Kpala, qui sont vers Missintové, qui arrivent, les gens qui sont à Détikopé, mais il y a beaucoup de gens qui sont à Tchévi et tout ça. Mais pendant ce temps, mais la puissance ou la consommation électrique que ces gens font là-bas, ça fait que à Lomé, on est même plus satisfait. Et on est obligé de faire quoi ? De réduire le truc pour que les gens de Lomé soient quand même satisfaits, ou les gens qui sont en pleine capitale soient satisfaits. Maintenant que la ville se développe à une vitesse exponentielle, est-ce que nous avons fait la prospective pour suivre justement ce développement de la capitale, ce développement qui s'impose à nous? Dans, par exemple, on a des quartiers qui peut-être avaient une puissance, consommaient une puissance de en matière d'électricité de, je sais pas, je raconte ma vie de une petite puissance, mais qui aujourd'hui, la population tellement, les habitants tellement sont tellement nombreux dans ce quartier aujourd'hui qu'on ne pourra plus leur livrer la même quantité, la même puissance. Donc il faut faire quoi? Il faut augmenter. Maintenant, si vous augmentez, vous allez trouver la puissance là où à la mettre à disposition. Il faut chercher de nouveaux partenaires. Et c'est cette perspective-là qui nous fait défaut aujourd'hui. On peut planifier, oui, mais tout le monde connaît les fournisseurs du Togo en matière d'énergie électrique. C'est les mêmes. Il n'a pas changé. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Parce que quoi? L'électricité qu'ils ont ne suffit plus. Et la puissance qu'ils ont ne suffit plus. La population s'agrandit, les villes se développent. Et aujourd'hui, quand vous prenez par exemple au Togo, une unité comme la plateforme industrielle d'Adetikopé, mais elle a besoin d'électricité. Elle a besoin de courant. Bon, maintenant, et pendant ce temps, quand vous installez une unité comme la plateforme industrielle d'Adetikopé, quel est le nouveau partenaire en énergie électrique que vous mettez en place, enfin, vous, que vous recrutez ou avec qui vous signez un contrat pour qu'on fournisse Pierre? C'est les mêmes partenaires qui sont là. Mais Pierre a besoin de consommation électrique, de plus grande puissance. Mais pendant ce temps-ci, on concentre toute la puissance à Pierre, les autres vont faire comment? Donc, il y a ça, tout ça, c'est dans la prospective. Et donc, aujourd'hui, c'est nos fournisseurs compris. Le Nigeria, aujourd'hui, a de plus en plus d'usines qui ont besoin de courant. Et ils ne vont pas pouvoir satisfaire ces usines-là en continuant à exporter. Il faut qu'ils arrêtent l'exploitation, réduisent pour donner une plus grande capacité aux usines. Vous prenez le Ghana, même chose. Tous les pays se développent. Le Togo aussi. Bon, maintenant, si nous allons comme cela, il faut quand même aussi nous inscrire dans une certaine stabilité en matière de courant électrique. Sinon, la situation qu'on vit actuellement, c'est une situation vraiment qui fait mal. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les commerces, vous regardez les hôpitaux, vous regardez les gens qui se plaignent chaque jour du manque de courant, d'électricité, vous posez la question de savoir comment ça va se passer. Vous avez par exemple des gens qui sont dans les contrées où même le moulin, ça ne travaille plus. Vous comprenez, c'est désolant.
D'accord. C'est vraiment désolant. C'est désolant. Ça se comprend. Alors, Ambroise, c'est vrai que cette situation telle que l'homme l'a dit maintenant, ça fait tellement mal parce que ça entache ou ça impacte tellement sur le quotidien alors du Togolais. Mais finalement, pour sortir de l'auberge, peut-être que ce n'est pas demain parce que nous n'avons rien comme mesure disposition devant nous.
Oui, d'abord le problème est à plusieurs niveaux. Hein. Je voudrais commencer par là où l'homme a chuté par rapport à cette histoire de Pia. Pia doit avoir sa centrale thermique ou sa centrale d'alimentation pour pouvoir tourner les industries qui sont là-bas.
Non, c'est pas obligatoire.
Pia doit avoir une autonomie. La preuve est là aujourd'hui, s'ils en souffrent et en même temps impactent les ménages, il va falloir que...
Non, je n'ai pas dit qu'ils en souffrent.
Non. Oui, mais ça impacte maintenant leur présence. Ils pompent l'énergie et ça impacte les ménages qui aussi en pâtissent avec le délestage.
Mais est-ce que c'est vérifié?
Bon, ça c'est juste, je vais commencer par là.
D'accord.
Maintenant, le second niveau, c'est au niveau des ménages. Les conséquences au niveau des ménages. C'est, et à ce niveau-ci, il y a deux volets. La première conséquence, c'est que les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises, en souffrent. Ceux qui sont dans le foie, les poissons, les produits carnés et autres, pendant 4 jours, vous coupez. Vous imaginez le préjudice, les dégâts que cela crée à ce commerçant-là, et qui est obligé de jeter les poissons. Et qui va payer le retour? Qui va payer ça? Alors, c'est à la société de payer. C'est en cela que nous, on a toujours dit aux petits commerçants, aux commerçants ou aux entreprises, si vous avez des dégâts à votre niveau, il faut appeler un monsieur. On n'a pas l'habitude de le faire, mais il faut commencer par le faire. Parce que la société jette des milliards, des dizaines de milliards à l'assurance. L'assurance consomme et c'est fini. Donc, qu'est-ce que les gens doivent faire maintenant? Il faut amener l'huissier, faire le constat, les dégâts que cela produit, et maintenant le préjudice sera compensé par le service contentieux de la CET à travers ses assurances. Ça, je dépose ça là-bas aussi. Que les consommateurs soient avertis qu'il y a des milliards au niveau de des assurances que nous ne consommons pas, alors que nous avons des dommages chez nous. Maintenant, le second volet de ça, quand on coupe l'électricité, vous allez voir que les factures ont doublé. Chez moi, la facture a doublé. On était dans une émission la dernière fois, tous les confrères ont reconnu que des factures ont doublé. Certains ont triplé. Paradoxalement, on coupe. Ça fait des fois, quand ça chauffait, et ce mois d'avril, fin avril, quand ça coupe de 7h jusqu'à 20 à midi, quand ça reprend, la consommation augmente en même temps. Ça fait, je ne sais pas si vous imaginez le volet énergique et la vitesse que cela prend pour revenir. Exactement comme l'eau de robinet. Quand vous ouvrez, on a coupé, vous oubliez, vous partez, ça fait chaud, ça consomme. Et donc, c'est la même manière, pour la basse tension, le courant qui fait rentrer l'énergie dans votre maison, si le fil est très mince, vous risquez d'avoir une facture gonflée. Mais si le fil est gros, les techniciens même savent comment expliquer ça, vous avez au moins la chance de réduire l'impact. Maintenant, quand on coupe...
Oui, mais ça, c'est une question d'installation.
Oui, quand on coupe... c'est la maison.
Voilà.
Quand on coupe, maintenant, ce qui est dommage, c'est que quand on coupe, ça fait... ça tourne vite. Et les gens vont constater que leur facture a augmenté. Maintenant, revenons maintenant au problème au niveau des institutions. Nous, on avait publié la dernière fois à une de notre journal, vous savez, si vous avez lu, c'est-à-dire que de l'estage inédit au Togo, dans le titre, on a écrit... les dettes insolvables seraient-elles à l'origine? Et la ministre a répondu à cette question-là. On a su qu'elle nous a directement répondu.
Oui, ben,
malheureusement, on ne nous a pas invité à la conférence de presse. C'est ça le Togo aussi. On invite, vous savez, au lieu de s'appuyer sur les points focaux, ceux qui sont des journalistes, qui ont quitté la TVT ou la radio, mais pour être des points focaux dans cette institution, on préfère confier la gestion des médias. Comment vous les appelez? À des consortiums ou agences. À des agences de communication,
des agences.
Qui ne maîtrisent rien de la presse. Qui ne maîtrisent rien de la presse.
Oui, c'est vrai aussi.
Ouais.
Qui ne maîtrisent rien de la presse. Michel, est-ce qu'on t'a invité? Est-ce qu'on a invité l'homme?
Non.
Voilà.
Non,
alors que c'est nous qui portons le message. C'est nous qui. D'abord, on a des journaux.
Mais ils ont invité aussi des journalistes.
Hein?
C'est des journalistes qu'ils ont invités quand même.
Non, on refuse pas. Mais non, c'est nous, mais nous, on est là maintenant. Si on trouve l'affaire, on tape. C'est comme ça.
D'accord.
Attends, je n'ai pas fini.
Oui, mais rapidement.
Je vous dis qu'en réalité, si on trouve la faille, nous, on va bombarder. C'est comme ça. Parce que vous refusez de nous inviter, on n'a pas l'information. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous, on traite l'information qu'on a. Et on va aller comme ça. Pour vous dire qu'en réalité, il faut cesser de se comporter comme ça. On nous a dit dans ce pays qu'il y a, les gens sont en train d'améliorer les entretenir les choses au Ghana, au niveau de la Vera. On sait comprendre l'électricité au niveau du Nigeria. Et l'homme l'a dit, le Nigeria aussi a des problèmes. Maintenant, la centrale qui a coûté 500 milliards au Togo, la centrale contrôle globale, je ne sais pas si vous avez les informations. Cette centrale, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce qu'elle peut. Mais on ne peut pas engloutir 500 milliards ou 400 milliards dans la construction d'une centrale thermique qui fournit l'énergie à nos trucs, et on a des problèmes. La centrale Kekeli qui est à Abita, je crois. Est-ce qu'elle a commencé pas à travailler?
Non, Kekeli,
c'est Lomé. Et celle qui est à Abita, celle qui a commencé pas à travailler. Et Nangbeto. Là, n'en parlons même pas. Pour vous dire qu'en réalité, moi, le problème de gaz, tout ça, là, qu'on dit là, d'accord, mais il y a quand même un problème d'insolvabilité, des dettes, qu'il faut remarquer. Parce que ça, si on est un temps qu'il y a des boss qui ne payaient pas leur
identité. Mais la ministre a rejeté cette piste, hein.
Oui, elle a refusé. Nous, on a la preuve. Que la ministre nous donne la preuve.
D'accord, ok, oui, Michel.
Non, il y a une partie de l'intervention d'Ambrose que qui est intéressante. C'est la communication qui se fait autour, en tout cas dans les institutions de la République, dans certaines institutions de la République. Quand je prends la communication qui a été faite la dernière fois, moi j'étais surpris que j'étais sur une radio pour une émission. On me dit non, la veille, il y avait une conférence de presse. Je dis oh, où ça? On me dit ah. Moi je n'ai pas l'information. Et c'est que des gens, on a amené quelqu'un de quelque part, que c'est lui qui doit assumer. Et on a invité des gens qui, la plupart, c'est vrai, il y avait certains confrères là-bas, mais la plupart, c'est des influenceurs. De quoi? On ne sait même pas.
Donc nous, on ne sait même pas.
Quel objectif on veut? Et on ne nous veut pas nous donner l'info. Celui qui est là-bas, en tout cas, il y a un confrère qui est là-bas toujours.
C'est David Tougo.
Je pense.
Il nous avait appelé.
Lui nous. Mais
nous avait
appelé. On a amené quelqu'un d'ailleurs. Je ne sais pas. Et semble-t-il, c'est des agents de communication. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le recensement. Dans le recensement général de la population, où on a remis la communication à une agence de communication. Vous avez vu le fiasco. Des gens qui ne maîtrisent pas la presse privée. La presse en général, c'est à eux qu'on confie le travail à faire. Et le plus souvent, ils butent. Hein. Ils butent.
Maintenant,
ils prennent le mur. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça se fait. Quand il y a des trucs comme ça, donner une bonne information à la presse, et finalement, on appelle des gens qui ne connaissent même pas les médias. C'est à eux qu'on remet. C'est un problème, hein. Un énorme problème. Et je vous donne le seul exemple du recensement général de la population togolaise, où on avait, et finalement, heureusement, à la dernière minute, on a repris la situation en main, et pour inviter les radios, pour faire un bon travail. Donc, c'est un autre problème, ça. On invite des gens, l'information qui a été donnée la dernière fois. Que bon, en week-end, c'est-à-dire durant les week-ends, comme il y a des usines qui ne tournent pas en plein régime, on va peut-être trouver le temps maintenant de servir les quartiers résidentiels.
Et c'est la nuit qu'on couche.
Et nous étions dans un quartier résidentiel, on voulait commencer, on a fait l'émission vers la fin, on a trouvé. Donc, vous voyez, ça dit ça là. Et c'est pourquoi je dis, nous devons relayer l'information, qu'on nous donne la bonne information, qu'on ne soit pas, qu'on ne sélectionne pas. C'est à qui on doit donner.
Ce que Michel a dit, ce que Ambroise a dit prioritairement, est-ce que Michel complète, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui en matière de communication faire du coq à l'âne. C'est-à-dire que on a constaté qu'il y a un problème de communication qui s'est posé quand on a commencé à couper le courant. Parce que personne ne prenait la parole pour dire effectivement voilà ce qui se passe. Pour une fois qu'il y a la ministre qui s'asseye pour rencontrer la presse, je crois quand même que ça doit être inclusif. Et le ministère de l'énergie dispose de sa base de données en ce qui concerne les médias.
C'est clair.
Vous comprenez? Et on ne sait pas sur quelle base on allait prendre une agence qui, plus est, on ne sait pas s'il a consulté même le conseil en communication du ministère pour voir la liste des médias à sa disposition, puisque le rôle du conseil en communication de l'attaché de presse, c'est de faire une revue de presse quotidienne qu'il soumet.
Encore faudrait qu'on le considère là-bas.
Et qu'il lui donne les orientations en matière de communication et qu'il donne une bonne image, une visibilité à l'institution. Mais il sait avec quels médias il travaille aussi. Et il connaît les médias qui prioritairement traitent de telle ou telle information, qui ont de l'audience, qui ont de l'impact.
Voilà.
Donc
voilà.
Vous ne pouvez pas débarquer en tant qu'agence et on vous remet tout et puis vous travaillez, vous invitez 15 à 20 journalistes qui s'asseyent et on finit. Et moi, sincèrement, j'ai rien compris de ce casting-là. Parce qu'on a tous moi, j'ai lu l'article sur les réseaux sociaux. Je dis la vérité. Comme mes confrères qui en parlent.
Ah oui.
Voilà, on est là. Sur les réseaux sociaux.
Non, on est là.
On a parlé. Après, on a fait une conférence de presse. Après, on a regardé. On a dit que. Mais puis, on était tous surpris. Il y a un truc comme ça qui se passe.
Des Bitoza qui se comportent comme ça.
Nous sommes touchés par la situation. Et on sélectionne des gens comme ça. Et bon, deux, trois personnes, ils s'asseyent. Alors que le truc est un truc national. Vous comprenez,
c'est tout à fait. Et voilà. Beaucoup de gens s'attendaient vraiment à des explications.
Oui, c'est une crise nationale. L'énergie n'est pas à Lomé. C'est une crise nationale. Quand vous allez à l'intérieur du pays, au fur et à mesure que vous allez, on coupe là-bas aussi. Et ils nous rendent compte. Dans toutes les villes du pays, on coupe l'électricité. Mais c'est la conférence de presse ne veut pas se limiter qu'à 10, 15 journalistes dans un bureau.
Voilà, mais il y a un fait. On ne peut pas appeler tous les journalistes quand même. Nous sommes conscients.
C'est un point de presse alors.
on ne peut pas appeler tous les journalistes dans ces... Mais quand même, de faire un effort
inclusive
pour que le maximum de journalistes aient l'information.
Et l'information. Parce que ça concerne la population. Oui, un fait justement qui s'est posé, Ambroise, un fait qui s'est posé justement alors lors de cette conférence de presse, c'est que à un moment donné, la ministre disait que elle a une urgence et donc les confrères n'ont pas pu poser quand même les questions comme cela se doit.
C'est-à-dire qu'elle fuit la question. C'est-à-dire, ne même pas peur des mots. Le simple fait même qu'on n'ait pas invité certains médias, ça rejoint ce que tu viens de dire. Parce que j'ai eu l'écho. C'est en cela, moi, j'ai sorti le sujet là. Si vous voulez être ministre, vous voulez être ministre pour un peuple. Vous communiquez avec le peuple. Si vous-même, vous ne pouvez pas le faire, la dernière fois, c'est le directeur de cabinet qui nous avait rencontré. Le directeur de cabinet avait clairement dit que le gaz manquait. Et nous, on a publié ça. On s'est rencontré le 2 février. On était, mais ça aussi, ça n'était pas nombreux, mais le directeur de cabinet avec l'attaché de presse, ils étaient là, ils nous avaient clairement dit ça. Et les gens ont relayé. Si c'est lui qui maîtrise, on n'a pas besoin de la ministre. Parce que de grâce, vous êtes ministre, vous communiquez à un peuple. Soit vous êtes ministre pour quelqu'un, pas pour le peuple. Et disparaissez quoi? Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'énergie. L'énergie, c'est un élément stratégique dans un pays. C'est comme le carburant, quoi. Vous voyez? Donc l'électricité, quand on coupe, ça crée des dommages. Maintenant, vous, ministre, la crise couverte depuis janvier. Nous sommes au mois de mai, ça fait 5 mois après. Vous voulez communiquer, faites ratisser large. Maintenant, vous amenez les gens, maintenant, vous faites un point de presse et non une conférence. Le point de presse,
c'est que les gens posent des questions quand même.
Les gens posent des questions. Peut-être que c'est des questions limitées. Alors, ils n'ont qu'à nous inviter. Nous, on a des questions. Si on n'a pas de questions, nous, maman, on va aller chercher des questions. Vous posez dans nos journaux.
D'accord.
C'est là que nous faisons, c'est ce que nous faisons actuellement.
Michel, vu justement la situation telle que cela s'est présenté le samedi dernier, est-ce que ça veut dire peut-être que le gouvernement n'avait pas la situation en main pour expliquer aux uns aux autres, alors que, mais écoutez, c'est ce qui se passe actuellement. Et maintenant, dans les jours à venir, ce sont là les dispositions que nous prenons.
Oui, mais les dispositions... Que le gouvernement, nous avons parlé dans notre journal aujourd'hui des promesses faites par le ministre de l'énergie. Ce que le gouvernement communique, nous sommes obligés de faire confiance au gouvernement. Mais ce qui me surprend, c'est que par rapport à la rationalisation de l'énergie, il se fait que ce n'est pas respecté.
On ne comprend pas.
On vous dit que dans votre quartier, on va vous couper de telle heure à telle heure. Dans telle zone, on va couper de telle heure à telle heure. Mais ma foi, vous êtes là-bas, vous pouvez abandonner même votre atelier parce que vous n'aurez pas le courant. Mais le moment où vous revenez, espérant que vous avez le courant, c'est le moment là même où on vous coupe. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Nous, au bouclage, par exemple, nous chassons, la dernière fois, je le disais ici, on est là toute la journée, on est là, on ne fait que fumer. Parce que moindre lumière, il faut aller vite. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut vous couper. Alors avec le plan de rationalisation de l'énergie, normalement on devait savoir qu'à tel moment, on doit quand même avoir de l'énergie ou pas. Et tenir compte de ça pour faire ce que nous voulons.
D'accord.
Mais ce n'est pas respecté. Vous voyez, c'est ça aussi le problème.
D'accord, c'est ça le problème vraiment. Alors, nous allons quitter le sujet.
Il faudrait véritablement que... Vous avez vu, en matière de... Quand on parle d'inondation, par exemple, cette dernière semaine, ces derniers jours, vous avez vu toute la communication qui se fait autour pour que les gens comprennent véritablement les initiatives qui sont prises, comment ça va. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Hein. Mais depuis qu'on coupe le courant, ça fait des mois, mais on n'a pas vu ça. Ce dont je parle, ça fait juste deux semaines. Hein. Vous avez vu? Vous pouvez même être au bout du monde, vous allez savoir qu'au moins, il y a des gens sur le terrain, il y a des gens qui rencontrent des gens, on discute, il y a quand même une assistance qui se met en place. Quand on parle de courant électrique, il n'y a rien. Comment on peut comprendre ça? Et maintenant, on
n'a pas de communication.
On n'a pas le courant, et en plus, les gens sont inondés. Mais vous savez, la dernière fois, il a plu à 2h du matin, on a coupé le courant, mais les gens ont fait 48 heures vers la zone d'Amadaromé, sans courant. Ils disent que c'est une panne. Adjidogomé. Sabado en allant. Depuis 2h du matin, on a coupé, on a remis le courant le lendemain. C'est une panne. Et ça, par exemple, il n'y a aucun communiqué qui vient vous dire que c'est une panne, quoi. Vous devez appeler
le 82-28,
décroche. Mais il n'y a aucun communiqué même pour dire au client que voilà, on a tel problème, il y a une coupure de courant. Parce que déjà, l'eau est en train de rentrer dans la maison des gens autour de 6h, 7h du matin. Mais toutes les maisons, il y a beaucoup de maisons qui étaient inondées. Des gens étaient déjà vraiment fâchés, en colère. Et en plus, il n'y a pas le courant. Et tout le monde se tait. Non, mais à un moment donné, il y a un problème. Soit le minimum qu'on puisse demander de nos gouvernants, de ceux qui, quand même, sont là, à ceux véritablement qui nous accompagnent, c'est de pouvoir communiquer avec nous.
Expliquer la situation.
Oui, communiquer seulement. Communiquer, prendre langue avec le peuple, échanger continuellement, garder le feeling, le contact. Mais le fait de sortir communiquer, on n'a pas besoin que vous veniez prendre un micro à Canal FM pour dire, voilà. Mais sortez juste en communiquer pour dire, vous êtes à pied d'œuvre pour nanay, c'est un peu, ouais, retour à la normale, c'est fini.
D'accord. Et donc, oui.
La semaine dernière, il y a un confrère qui avait titré que la CT communique mal. La CT communique mal. Et ce n'était pas faux. Au niveau, par rapport à ce que l'homme dit, par rapport à l'énergie, la communication qui est faite est un peu, excusez-moi, elle n'est pas bien faite. Vous voyez, au temps de Covid, je pense qu'il y avait une manière pour...
Pour
rassurer, pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire.
Puisque là aussi, c'est une crise. Hein.
C'est une crise, oui, pour rationner. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de tenir la population en haleine par rapport à ce qui est en train d'être fait. Sinon, les gens pensent que rien n'est fait, alors que le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Et l'homme le disait par rapport aux inondations, il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Il faut, et là, c'est bien communiqué. Et là, c'est bien communiqué. Ah, il faut le dire. En tout cas, peut-être on va en venir. C'est bien communiqué.
Le DG de la CT était, on nous a dit qu'il était aux côtés de la ministre. Lui, apparemment, lui, il fuit les médias. C'est-à-dire que nous, on te cherche pour nous communiquer. Maintenant, tu te rabats sur la ministre. Vous venez faire juste 15 minutes pour un point de presse.
Mais là aussi, avec la ministre, c'est pour...
Le DG de la CT, même pouvait organiser une conférence de presse. Autant des ministres de Damipi, nous pourquoi, je me rappelle, même évidemment, je crois, elle était ministre en ce moment-là. Il faisait des conférences de presse, surtout Damipi, dans une salle là-bas, avec Djedje Teli, il faisait des conférences de presse dans le temps.
Mais est-ce qu'il a déjà reçu l'ordre?
Le problème chez eux, c'est que je ne veux pas sortir pour aller dire quelque chose qui veut me coûter mon poste. C'est ça le Togo aussi. Tu es là, communique quoi? C'est-à-dire, il faut être ouvert et franc. D'accord. On sait que tu te débats. Okay. Mais tu vas dire quoi à qui pour m'énerver qui? Nous, on a besoin de l'énergie. Mais tu ne peux pas t'enfermer dans ton bureau et les gens souffrent et que tu ne dis rien. Dis au moins que si vous avez des problèmes, allez chez un monsieur, il y a des milliards au niveau de la finance. Ça, je martèle sur ça. Tous ceux qui ont des problèmes là, convoquez un monsieur, il fait le constat, il va déposer au service contentieux de la CET. Vous allez avoir, on va vous payer pour les préjudices que vous avez subis.
D'accord, merci beaucoup pour l'information. Alors, nous allons quitter le sujet, hein, puisque c'est vrai que c'est un sujet très intéressant, et puisque ça touche même d'ailleurs au quotidien. Mais nous allons nous intéresser d'ailleurs à ce sujet dont parle aujourd'hui le journal Le Changement, à cette personnalité qui nous a quittés il y a de cela 4 ans. Je veux bien parler alors de Maître Yaouvi Madi Agboibo. Le journal titre à sa une, 30 mai 2024, 4 ans jour pour jour, Maître Yaouvi Madi Agboibo nous quittait. Retour sur la vie de l'homme. Alors, Michel, oui. Quand on suit aujourd'hui l'actualité politique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr, puisque Maître Yaouvi Agboibo a été un homme politique, bien sûr, et aujourd'hui, on dirait, est-ce qu'on pourra dire que Maître Yaouvi Agboibo manque à la vie politique alors du Togo?
Mais pourquoi pas? Ceux qui le disent n'ont pas totalement tort. Je pense que Maître Yaouvi Agboibo a un moment donné, par rapport à sa philosophie politique, où il privilégiait beaucoup plus
le dialogue. C'était ça la méthode.
Oui, sa méthode. C'est un monsieur qui avait une intelligence politique énorme. Malheureusement, il est parti avec tout ça là. Parce que vous voyez ce qui se passe dans sa famille politique actuellement. Il est parti avec tout ça là. Sinon, on peut le dire, Agboibo manque à la classe politique. Parce que lui, il avait sa méthode. Lui, il avait une philosophie. Au moins lui, il avait une philosophie politique. Bon, malheureusement, on pensait que après sa mort, ses héritiers allaient peut-être... lui en battait le pas, en tout cas maintenir le flambeau, mais on se rend compte que c'est la guéguerre c'est la nuit au long couteau, et vous voyez la situation dans laquelle le car est. Et comme quelqu'un le disait, le car fume, et depuis longtemps, on n'a pas encore trouvé le temps de réparer ce moteur. Donc,
et le car ne retrouve toujours pas son chauffeur.
Oui, le chauffeur n'est pas là, le moteur fume, et vraiment, c'est le désastre. Donc, il faut quand même dire que c'est un monsieur qui avait apporté quelque chose, quoi qu'on dise, dans la vie politique de notre pays. Et son départ, en tout cas, laisse l'opposition dans une situation que personne ne comprend. Ceux qui disent que qu'ils ont, c'est-à-dire que l'opposition a perdu quand même un pion important, je pense qu'ils n'ont pas, ils se trompent pas. Hein. Quand nous voyons actuellement la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'opposition togolaise, on peut se dire que si Ahmed Aboubakar était là, peut-être que il avait peut-être quelque chose à sortir de sa JBCR.
D'accord. Et l'homme, c'est vrai qu'on connaissait hein, en quelque sorte la méthode alors de Maître Yaouvi Agbeibo, mais cette méthode finalement n'a pas marché. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas été compris en son temps?
Bon, vous savez, quoi qu'on dise, quand on est en politique, il y a des stratégies qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas. Peut-être qu'il a été longtemps resté quand même l'un des pions majeurs de l'accord politique global, vous vous rappelez. Peut-être que sur le point de la méthode, il n'a pas essayé d'adhérer un maximum de personnes autour de ça, mais quoi qu'on dise, et comme Michel l'a dit, Maître Yaouvi Agbeibo perd son âme, manque à la scène politique togolaise. Des gens comme lui, je crois qu'il va falloir attendre longtemps avant d'avoir quelqu'un de la tempe de Maître Yaouvi Agbeibo, qui était convaincu de ce qu'il faisait, très intelligent, ancien bâtonnier, et qui l'un des tout premiers cabinets d'avocats au Togo, Maître Agbeibo est associé. Donc je crois quand même que sur le plan politique, il y a quand même un héritage. Sauf qu'au niveau de son parti politique, il n'y a pas. Il y a même les gens du parti qui n'ont véritablement pas compris les stratégies ou la pensée de l'homme, et qui aujourd'hui, bizarrement, sont en train de s'entre-déchirer autour de l'héritage politique. Et parce que, franchement, depuis que Maître Agbeibo est parti, ça fait 4 ans, oui, la succession est très difficile. Et ceux qui sont là aujourd'hui aux affaires, au niveau du cas, n'arrivent pas véritablement à tenir le volant. Et c'est dommage pour ce parti qui, quand même, a fait son temps au Togo. Et quand on regarde les dernières élections, avec tous les résultats obtenus et comment les responsables de ce parti sont en train de se comporter face au micro et tout ce qu'ils disent, Maître Yaouvi Agbeibo perd son âme, ne ferait pas ça.
Alors Ambrose, Maître Yaouvi Agbeibo, on le connaissait justement avec sa méthode et tout, et aujourd'hui c'est vrai, on voit la situation dans laquelle se trouve alors son parti politique, c'est-à-dire le CAR. On se souvient même d'ailleurs lors des élections législatives, vous imaginez, il y a plutôt alors 5 personnalités hein, du CAR qui ont été à ces élections dans des mouvements différents hein, où eux-mêmes ils ont créé justement des mouvements ou des indépendants, justement, des groupes indépendants, hein, qui et ils sont partis même d'ailleurs à ces élections. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, Maître Agbeibo n'a pas su, en quelque sorte, construire son après?
Oui et non. Oui, parce que le moment où il devait quitter la BAC, il avait raté le coche en ce moment-là. C'est en ce temps-là où les maîtres Apévon, les Gavons, tout ça là, avaient vidé la BAC. Moi, j'étais présent. Puisque si je devais avoir un second père, à part mon vieux, ce doit être Agbeibo. Maître Agbeibo. Mon vieux et Agbeibo ont créé le CAR en 89. Agbeibo venait chez nous, je le connais bien, et toutes les conférences de presse qu'Agbeibo organisait, c'est moi qui les organisais. Tous les confrères pouvaient témoigner, soit c'est sous le manguier, ou soit c'est vers Eyamo, ou soit c'est à Koyakope. Bon, il a plusieurs maisons. Vous savez, c'est un monsieur, ce qui. Je lui rends hommage parce que ce que je retiens de lui, quand tu vas chez Maître Agbeibo, il t'appelle, c'est lui qui t'a appelé, tu vois, c'est lui. Lui, c'est plutôt lui qui te pose des questions. Il veut savoir ce que toi tu penses du sujet d'abord avant que lui-même ne réponde. Il est très malin. C'est ça, les gens appellent la ruse politique. Et ce qui me plaît aussi chez lui, il ne s'énerve pas. Même dans ses dribbles politiques, dans les dribbles politiques, entre eux, acteurs politiques, il ne s'énerve pas, mais il sait ce qu'il fait. Il fait tout pour coller les brèches et apporter son plus à l'évolution de l'opposition au Togo. Depuis le code 2, nous on était toujours là. Et donc, là où il a raté, il devait préparer un dauphin lui-même avant de partir. C'est le même problème que Jikis Olympio a aujourd'hui. C'est le même problème. Ceux qui avaient lutté pour Jikis Olympio depuis les États-Unis avant d'arriver ici, tout ça là, Olympio n'a pas su canaliser. Mais Agbogbo n'a pas fait trop d'erreurs comme Olympio le fait aujourd'hui. Lui, il est vivant. S'il était ici, je lui dirais ça face à face. Donc, pour vous dire, en réalité, et moi, je n'étais pas du tout content de peut-être Agbo qui était député. Si c'est peut-être lui qui avait dirigé le cas, j'aurais peu de mots à dire parce que c'est le monsieur que je voyais tout le temps avec M. Agbogbo. Tout le temps, quand tu vas là-bas, il est là-bas. Par contre, je n'ai jamais vu M. Daté, ni au cours des conférences de presse, où il y avait les maîtres à Pévon, tout ça là, les gens qui s'y surtout, tout ça là était présent. Je n'ai jamais vu M. Daté. Ça, je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si c'est la nuit, lui vient. Bon, nous, je ne sais pas, c'est après les jours. Pratiquement tous les temps que moi, dans une semaine, je peux aller chez M. Agbogbo, au moins trois fois.
Mais les militants reconnaissent quand même que M. Daté fait partie alors du cas.
Oui, les militants le reconnaissent. Les journalistes aussi ont leur mot. Vous voyez ça? Et les sorties qu'ils ont faites, la dernière fois, le mardi, je disais plutôt content de leur revirement. Parce que la manière dont ça a commencé là, nous, on a tiré les flèches. Et ça nous a valu, comme quoi j'ai appris qu'ils devaient porter plainte contre nous. Je suis désolé, allez porter plainte. Si vous faites bien, on va le dire. Si vous faites mal, on va vous le cracher au visage. Et cette fois-ci, je les ai appréciés, leur sortie par rapport aux histoires de la Constitution, au régime et aux élections. C'est ce que le peuple veut, quoi. Vous devez fonctionner sur les désidérateurs du peuple, même si ce peuple-là aussi est à prendre avec des gants. Est-ce que vous comprenez? Le peuple togolais est à prendre avec des gants, parce qu'on ne sait même pas quel peuple nous sommes, et nous souffrons. Au Mali, les gens ont décidé, au Niger, les gens ont décidé, au Burkina, les gens ont décidé. Mais ici, on est là. Vous voyez ça? Donc, Maître Agbogbo manque effectivement, non seulement au cas, mais à toute la classe politique togolaise. Parce que c'est un monument, c'est un rusé, c'est un relais politique que le Togo, dont le Togo a besoin, contrairement à leur. Je rends hommage aussi au professeur Ninavi, qui est toujours là, que Dieu lui donne encore quelques.
Très discret. Hein? Très discret, c'est.
Oui, le monsieur, bon, peut-être il est mathématicien, hein, et c'est ça lui donne ce rang-là. Souvent, ceux qui sont très scientifiques, ils sont réservés. Mais je me dis que, contrairement à certains, je ne vais pas citer des noms ici, mais je sais quand même que Agbogbo, en ce moment-là, nous sommes dans un trou. Il serait présent, on pourrait quand même, les gens pouvaient compter sur lui pour amener Fong Nassimbé et c'est son entourage à changer de vision. Là, nous sommes de plein pied dans la dure dictature.
D'accord. Alors, Michel?
Non, vous savez, tous les présidents fondateurs, là, je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment ce flair-là de préparer leur après.
Et leur succession.
Oui. Vous voyez, les présidents fondateurs du parti, il faut voir les partis. Quand le président n'est pas là, c'est fini. C'est fini, c'est le fiasco. Ça sent avec vous voyez la disparition de Edem Kodjo, la CPP traîne à prendre son envol comme c'était le cas avec son président fondateur, en tout cas son ancien mentor. Et vous voyez avec l'UFC ce qui se passe avec le CAR. Il y a aussi le PDR, vous vous rappelez de Zarif Aïeva, depuis que le patron est rentré dans le silence, le parti, en tout cas, c'est peut-être à la CENI qu'on sent le parti, sinon le parti est invisible. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été raté dès le départ. Ceux qui animaient la vie politique dans les années 90, ils n'ont pas pris le temps de positionner leur après, et au soir de leur vie, on sent que c'est la catastrophe. Et c'est ça qui vraiment traîne l'opposition dans ce que nous voyons aujourd'hui.
D'accord. Alors, Elom, nous allons nous intéresser à un autre sujet, mais restons toujours en politique. Hein. Il y a Chronique de la semaine qui titre à sa une ce matin. Premier président du Conseil des ministres, un poste de droit pour le président Fogna Singbe. Alors, intéressons-nous à la nouvelle constitution, bien sûr. Et donc, nous savons qu'il y a eu une sortie même d'ailleurs du ministre Bawara sur une chaîne tout récemment et qui disait même d'ailleurs que, allez, automatiquement, ce poste revient de droit alors au président de la République actuelle, c'est-à-dire au président Fogna Singbe. C'est bien ça?
Oui, mais je crois quand même que ce n'est pas une nouvelle pour les gens parce que quand vous... À l'époque même du projet de constitution qu'on avait lu, la mouture, c'était clair, c'était écrit bien évidemment que le président du Conseil des ministres sera, enfin, que l'Assemblée nationale va désigner quand même le président du parti majoritaire qui sera le président du Conseil des ministres. C'est automatique. Donc si vous lisez cela, quand le chef du parti majoritaire, c'est qui? Quand vous connaissez le parti majoritaire, le président de ce parti, c'est qui? On vous dit qu'il sera élu président du Conseil des ministres. C'est ce qui est écrit. Donc, je ne comprends pas, je n'ai pas compris pourquoi il y avait... Parce que à l'époque, on avait fait ce débat.
Oui, mais justement, c'est parce que, déjà, à un moment donné, quand cette question alors de nouvelle constitution a commencé, il y a beaucoup de gens qui disaient que, mais oui, cette question de nouvelle constitution nous donnerait l'alternance, ce que les Togolais cherchaient ou ce que les Togolais voulaient et souhaitaient. Donc, finalement, est-ce que ce serait vraiment l'alternance comme cela se doit?
Le fait même, parce que là aujourd'hui on a quoi? On a deux institutions, on a plus le poste de PM, on a un poste de président du Conseil des ministres avec tous les pouvoirs et un poste honorifique du président de la République qui sera élu pour un mandat de 4 ans renouvelable. Donc un mandat unique, voilà, c'est un mandat unique, faut unique, pas que
justement. N'importe quoi. Oui.
Donc en réalité, est-ce qu'à ce niveau il y a alternance du côté du parti au pouvoir? On dit oui. Que ça veut dire que le poste de président de la République quitte les mains du président actuel pour les mains d'un autre, c'est-à-dire qu'on a quand même un changement de figure. Mais en réalité, le vrai pouvoir, c'est entre les mains du président du Conseil des ministres.
Tout
parce
à
que
fait.
Dans un régime parlementaire, c'est le Premier ministre ou le président du Conseil des ministres qui a tout le pouvoir. Et donc, est-ce que véritablement il y a alternance? Je crois que les Togolais sont assez mûrs ou matures pour comprendre véritablement s'il y a alternance ou pas.
D'accord. Oui, Ambrose, est-ce que vraiment l'alternance dont on parle, est-ce que ce n'est pas du leurre?
Actuellement, le poste du président de la République, ça ne nous dit rien. Parce qu'on a enlevé ce droit aux Togolais, le vote direct, c'est-à-dire que le suffrage direct, libre, on l'a enlevé au peuple togolais. Donc, tout ce qui concerne l'histoire du président de la République pour un mandat unique, là, ça ne concerne plus les Togolais. Ça, c'est un. De deux, le poste du président du Conseil des ministres, dont on parle, puisque la Constitution, jusqu'à présent, on n'a pas la monture officielle, parce qu'on vous dit qu'on a promulgué la Constitution là, et que c'est sorti au journal officiel, les gens vont chercher ça, les Togo, ils ne trouvent pas. Est-ce que vous me suivez? Donc quand vous ne trouvez pas la Constitution là, les Togo, ça veut dire que, en réalité, certaines dispositions doivent encore être touchées. C'est-à-dire que ça ne doit pas être au regard de tous. C'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, si le président du Conseil est désigné, c'est le président du parti majoritaire qui devient office président du Conseil de la République, président du Conseil des ministres, ce qui veut dire qu'il a le plein pouvoir, tel que les dispositions le disent. Et s'il a le plein pouvoir, cela suppose que il sera désigné sans débat. Le volet sans débat là m'a toujours inquiété, je l'ai toujours dit ici. Donc nous ne sommes plus en démocratie. Et ce n'est pas le régime parlementaire dont on parle en Israël, en Allemagne, en Italie, qu'on a ici. Ici, nous sommes dans un système spécial. Une constitution taillée, très taillée, bien taillée pour un monsieur, et il sera, c'est une moule, quoi. Et il sera assis dedans. Donc, nous, peuple togolais, on n'a plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il peut décider, soit il meurt, et c'est fini. Parce que quand on vous dit que la personne est désignée par le parti majoritaire au Parlement, avec un mandat renouvelable, sans limite, on fuit. C'est-à-dire que c'est les gens qui fuyaient déjà les 2025. Parce que 2025 arrive, qu'est-ce que Fogna Singbe aura dit au peuple togolais, à ses pairs de la CDAO, qui, au Sénégal, tout ça là, qu'on croit, moi je ne vais plus faire 5 mandats. Donc, s'ils sortent le verrou là, de 5 mandats, ça va encore crier oh, à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça va aussi tapoter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une passerelle pour que, qu'on puisse le retrouver dedans, et lui seul. Le reste là, ce serait encore de jeu de chaise musicale. On est DG, on devient député, on devient ministre. Et là actuellement, je vous dis que les marabouts sont aux anges. Parce qu'on va bientôt faire le gouvernement. Et ça a toujours été comme ça. On le dit. Les marabouts, tout ça là, les bœufs, vous voyez que les Fulani, même, ils se cherchent là-bas, dans les fermes là-bas. Pour vous dire qu'en réalité, le problème du Togo actuellement, nous sommes en danger. Il faut qu'on ait le courage de sortir les mots. Les gens veulent quitter ce pays. Ce matin même, moi, je mangeais quelque part. Le monsieur me dit, c'est un électricien, il me dit, grand frère, comment je peux faire pour aller au Canada et je lui ai dit, si tu veux aller au Canada, il faut disposer 6 millions, c'est le minimum. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de test de langue, il faut passer par ça là. Il y a des agences, mais il y a aussi des faux. Donc pour vous dire que, et je lui demande, pourquoi tu vas quitter pour faire quoi? Que ce pays ne l'assure plus. Il n'est pas le seul à le dire. Donc pour dire que je ne sais pas ce que nos dirigeants veulent de nous, veulent faire de nous quoi.
D'accord, merci.
Est-ce que tu vois?
Oui,
je comprends. Cette histoire de constitution, cinquième mandat là, beaucoup aujourd'hui au Togo se retrouvent dans la 4e République et dans l'ancienne constitution. C'est pas moi qui le dis, le professeur Dussault vous l'a dit, les partis politiques vous l'ont dit. Et donc eux-mêmes ils se tamponnent parce qu'il semble que le professeur Boda de l'université a dit qu'il n'y aura pas de grève, alors que l'histoire de non-grève là se retrouve dans la 4e, dans l'ancienne constitution. Vous voyez qu'il y a des gens, ils sont même dans le brouillard.
D'accord, ok. Michel, c'est vrai que déjà, tel que nous le disons, il y a le poste alors du premier, enfin du président alors du conseil des ministres qui est de facto au président Faure Gnassingbé. Ouais. Voilà, quitter alors le président ou le poste de la présidence de la République, alors pour le poste de premier ministre, comme on le redit. Ministre. Justement, premier ministre, bien sûr, parce que...
Président du conseil.
C'est le premier ministre. C'est l'appellation qui a changé, justement.
Non, c'est l'appellation qui a changé. Il faut s'en tenir à ce qui est écrit.
D'accord.
Oui. C'est le président du Conseil des ministres.
Okay.
Le premier ministre.
D'accord. Moi, ma question, c'est que quand on quitte alors le poste de la présidence de la République pour le conseil ou le président du conseil alors des ministres, ce n'est pas quand même les mêmes prérogatives.
Ah oui. Selon la nouvelle constitution, si mon frère Ambroise dit que les gens vont à Ditogo pour chercher. En tout cas, depuis la promenade, les gens exhibent cette condition un peu partout.
Ah bon, tu l'as actuellement.
Mais si tu veux, après, en offre, je vais te donner.
Okay, d'accord, je vais voir.
C'est une condition qui est là, qui circule. Hein. Ce n'est pas ici, on va dire que les gens ne sont pas. Selon cette nouvelle constitution, c'est le président du conseil des ministres qui a pratiquement les pouvoirs. Parce que c'est lui qui nomme les. Votre personnalité, les cadres militaires, en tout cas, c'est-à-dire, il a la haute main sur l'appareil de l'État. Et c'est vrai que le président de la République a certaines programmes, mais sont limités. Voilà. Et donc, si on s'en tient à cette nouvelle constitution, comme l'ont dit certains confrères, c'est le chef de l'État actuel qui, naturellement, prend donc. Ce poste-là.
Oui, justement, et Michel, sur ce point, pour ces gens-là qui disent que non, cette nouvelle constitution est faite de telle enseigne que le chef de l'État actuel reste au pouvoir éternellement, est-ce qu'ils n'ont pas raison?
Bon, je ne sais pas, c'est par vote, hein, puisque après 6 ans, il y aura vote. Bon, on ne sait pas, moi je ne sais pas en 2030 quel parti gagnera. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais si on l'affirme comme ça, alors qu'il y aura élection, je ne sais pas quel parti gagnera. Ça, c'est une manière précipitée ou une manière... Bon, on a des arrières-idées en le disant. Sinon, c'est dit que le parti qui gagnera, c'est le président de ce parti-là qui devient de facto le président du Conseil des ministres. C'est ça. Et donc, nous allons attendre. Pour le moment, c'est UNIR qui a la majorité. Ça, tout le monde le sait. On va attendre après 6 ans, voir quel parti gagnera.
C'est l'essentiel.
C'est l'essentiel. Mais je voulais dire à Ambroise que ceux qui veulent partir là, il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Du Canada, des États-Unis, de la France.
Tu n'as pas encore chaud.
S'installer.
C'est eux qui ont chaud.
S'installer ici. D'autres, si quand certains s'en vont, d'autres arrivent. Oui. Chaud par rapport à quoi?
Hein? Ça signifie que les gens ont chaud, ils sont
et d'autres sont de l'autre côté, ils arrivent aussi, ils reviennent.
Ils n'ont qu'à venir.
Non,
ils vont sentir aussi.
Et l'autre?
Non, vous savez, la question de la migration, c'est une question transversale.
Ça n'est pas...
Comprenez, c'est vrai que...
C'est une question économique.
Oui. Il y a, bon, il y a différentes...
Et une question politique.
D'ailleurs. Donc, du coup, on va pas accuser... On va pas accuser quelqu'un de vouloir quitter un territoire pour s'installer sur un autre territoire. Voilà. C'est son droit le plus absolu.
Oui.
Aujourd'hui,
pour des raisons politiques.
Voilà. Tout le monde est libre de s'installer sur le territoire de son choix. Le plus important, c'est le bien-être, c'est la paix, c'est la quiétude, que vous puissiez être en paix avec vous-même, que vous puissiez trouver le bonheur et que vous puissiez être en bonne santé. C'est le plus important. Maintenant que vous soyez en Nouvelle-Zélande, en Azerbaïdjan, à Lomé ou partout dans le monde, je crois quand même que vous êtes libre de vous installer là où vous voulez. Et ça, c'est votre droit le plus absolu. Parce que ça fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Les droits de l'homme, ils disent que chaque être humain est libre.
Il veut laisser le pays aux étrangers.
Donc, aujourd'hui,
au détriment des nationaux.
Je crois quand même que sur ce plan, on a fait le tour de la question. Donc, la question, le problème de la migration, le problème migratoire, il y en a tellement. Aujourd'hui, le Togo vit une situation, c'est la migration professionnelle. Vous comprenez ? Il y a beaucoup de gens qualifiés qui ont les diplômes qui vont travailler ailleurs. Et ça, c'est la première cause de migration au Togo. C'est la migration professionnelle. Voilà. Et après, il y a différentes formes de migration. Il y a la migration climatique, il y a la migration pour des motifs politiques et tout. Donc, en réalité, on ne va pas réinventer la roue. Tout le monde est libre de s'installer où il veut.
Je dis que le problème, le Togolais n'a jamais souhaité quitter son pays. Ce qui fait, laisse-moi aller, ce qui fait que les gens quittent ce pays, c'est la peur du lendemain. Avec une seule famille, un seul régime qui est là depuis 60 ans, les gens n'en peuvent plus. Parce que les gens, ils ne s'en sortent pas économiquement. Les affaires ne marchent pas. Les impôts sont là. Les taxes sont là. On vous coince partout. Et maintenant, vous ne vous en sortez pas. Les enfants vont à l'école. Vous avez, l'inondation a sorti beaucoup de gens de leur maison. Ce pays ne rassure plus. C'est la réalité, quoi. Ce pays ne rassure plus. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Nous, on est des patriotes. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Mais il y a aussi des confrères qui ont quitté les pattes au cou. Pour des raisons que vous savez, c'est les raisons politiques. Et il y a beaucoup aussi qui cherchent à quitter pour des raisons politiques. D'autres, c'est des raisons économiques. D'autres, c'est d'éviter l'AVC. Et l'hémiplégie.
Non, mais Ambroise le dit aussi.
Il y a des confrères qui sont chez nous aussi.
Ça, c'est eux, c'est nous. On parle de Togolais là. On parle des étrangers, tu parles des. On parle des Togolais, tu parles des étrangers.
Il n'y a pas des gens quand même qui
vivent. Il y a des journalistes étrangers qui sont ici, qui travaillent.
Oui, ça, c'est étranger. Nous, on parle de Togolais. Moi, je parle de Togolais.
Oui, mais quand les Togolais sortent,
les étrangers viennent aussi.
Moi, dans ça.
Les gens sont libres de Togolais qui
sont. Les gens sont libres de s'installer où.
Non, Michel, tu défends l'indépendance.
Non, pas
étranger. Je parle de Togolais. Tu ne parles pas d'étrangers.
Si,
c'est bon.
Il y a des journalistes étrangers qui travaillent.
Personne ne parle de journalistes, mais on parle de Togolais.
Oui, mais c'est bon, oui, mais écoute.
Ça parle de confrères.
Embrasse, oui, ça c'est un exemple.
Embrasse ce que je veux dire.
On parle de Togolais.
Embrasse, est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même
qui travaillent
et qui travaillent.
Je vous dis qu'il y a des patriotes. Je vous dis qu'il y a des patriotes. Parce que eux, au moins, ils supportent. Ils supportent parce que ce n'est pas tout le monde qui aime quitter son pays. Ça, ils sont majoritaires. Maintenant, ceux-là qui vivotent. Ceux-là qui cherchent un seul repas à manger, qui n'ont pas 500 francs cette journée pour manger, pour donner aux enfants. Tu veux qu'ils fassent comment? Tu vas chez tel membre de famille,
ça ailleurs, ils peuvent trouver.
Tes amis, ils peuvent trouver. Il y en a qui vont y trouver.
D'autres donc, viennent trouver.
Donc tu vas les empêcher de sortir?
Mais ils n'ont qu'à aller, d'autres viennent.
Donc c'est ce qu'on dit.
On ne
parle pas des autres qui viennent là, Michel.
Merci beaucoup.
Merci.
On ne parle pas des autres qui
viennent. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Justement, vos micros sont coupés. Alors, je pense qu'il est déjà midi. Nous allons rapidement faire un clin d'œil à nos annonceurs et donner aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'ils sont à l'écoute, ils nous écoutent et ils allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 73 115. Premier auditeur que nous insérons. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Basile.
Ah, je salue vos collègues.
Oui.
Oh, moi, c'est pour demander à Michel, mais quel journaliste qui est venu rester ici pour ça, ou bien il veut parler d'Alain Kouta? Alain Kouta qui a quitté RFI parce que l'agent du Togo corps, qui est beaucoup, on veut venir prendre, je ne sais pas si c'est de lui qu'il veut parler. Bon, ça c'est mon premier point. Vous voyez, la souffrance du Togo, allô?
Oui, oui, je vous écoute, Basile.
Allô?
Basile, je vous écoute, allez-y.
Allô?
Décidément. Basile, allô, vas-y, allô, vas-y, allô, je t'écoute.
Ah, comme je ne vous entends pas là. Bon, c'est pour dire que nous souffrons au Togo. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, ou bien s'il est dans la minorité, quand il vient sur le plateau, il n'a qu'à nous dire non, moi je suis venu, je suis dans la minorité. C'est pour ça qu'on va. On ne peut pas énumérer pourquoi on souffre au Togo. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22 21 33 114 91 36 63 75. 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Nyamavo.
Nyamavo, monsieur.
Oui, allez-y.
Oui, l'autre journaliste, là, je vais l'aider. Quand on dit que les Togolais veulent partir et son ami refuse. Même au sommet de l'État, ils sont conscients. Vous avez vu comment on donne les bourses maintenant aux étudiants. Les parents doivent signer qu'ils doivent revenir servir l'État. Parce qu'ils savent que quand les jeunes partis ne reviennent plus, parce que le Togo ne gère pas bien ses citoyens. Ça, c'est un exemple palpable. L'État togolais est conscient. Et vous savez, j'ai discuté avec un citoyen, il dit que le Togo est devenu plus que nous. Donc, le gouvernement, même le président avait dit qu'il n'y a plus d'inondation. Fake news. Élection. Fake news. Donc, il n'y a plus de réalité, quoi. Rien à prendre au sérieux au Togo. C'est pourquoi les gens ne vont plus aux élections. Vous voyez, bon, je me dis qu'avec la nouvelle constitution, vous savez comment j'ai caricaturé ça. Le président du conseil des ministres est plus comme le tel, c'est-à-dire que du Liban, quoi. Et puis, autour de lui, c'est les charlatans. Hein, et puis qui sont bien écoutés par les crédules. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Et vous allez voir, on va dire qu'il y a alternance au niveau de la présidence. Or, la même personne au sommet. Quelle alternance? Donc, comme c'est du fait que c'est Dieu qui va nous sauver. Merci.
Merci beaucoup, Nyamavo. 22 21 33 114. 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22 21 33 114. 91 36 63 75. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, votre nom?
Ah, je vais bien, je m'appelle Kombiani.
Kombiani?
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Je suis dans le quartier de Kégué.
Kégué, allez-y.
Chez moi, ce n'est pas un problème d'inondation ni politique pour le moment.
D'accord.
C'est la sécurité de la vie d'abord. Tout d'abord, je suis chauffeur. Et il y a un cas où souvent nous appelons au niveau de la TFM pour que l'État puisse voir ce côté. Jusqu'à présent, on n'a pas de gain de cause. C'est le problème des trois pieds jaunes qu'on appelle Mignon Villa. Oh, l'État n'a qu'à essayer de leur trouver leur itinéraire. Nous, les taximans, on paye une voiture, on vous capte ça à 5 millions. Maintenant, ils ont pris tous les acteurs de l'OME pour faire leur propre territoire. À Kidam, on n'arrive même pas à trouver passagers. Nous, on prend 4, eux, ils prennent même jusqu'à 6. Oh, monsieur le journaliste et Canal FM, tu sais que tous ceux qui viennent là-bas pour parler de la vie togolaise, c'est des journalistes de bonne profession. Hein? Il faut voir le cas là pour nous, les taximans. Vraiment, c'est à cause de ça. Moi, inondation, nous sommes dedans. Dans tous les pays, il y a inondation, au Bénin, au Ghana. Mais on ne fera que faire avec. C'est Dieu qui va nous sauver. C'est mon problème, ça.
D'accord, merci. C'est bien écouté. Votre message est passé, M. Kombiani. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce jeudi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Comment vous allez?
C'est M. Abalo.
M. Abalo, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle d'Agoué.
Agoué, allez-y.
Ok. Oui. Bon, moi, j'aimerais.
Allô?
Oui, oui, moi, j'aimerais réagir au sujet de de ce que, bon, vos confrères sont en train de se tirer là-bas pour dire que ça dit aux Togolais, les Togolais qui tirent sur... Ça, c'est un faux problème. Affaire de... que les gens quittent, d'autres viennent là. Ça, c'est un faux problème. Ici, actuellement, il y en a des étrangers qui viennent ici, qui s'en sortent. On a des, nos frères, on ne peut pas se les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui s'en sortent ici. Sinon, on sait que au Togo, comme ça ne va pas comme ça, il y a la misère, mais on ne peut pas dire que c'est à cause de la misère que les gens quittent le pays. Non, 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 moi je m'emporte en fou à ça. À ceux, si on fouille ici, les Amarmas, ce que nous appelons communément les Amarmas et les autres là, que Ambrose lui-même ici là, ils s'en sortent ici, c'est eux qui ont les grosses voitures, les grosses maisons à Lomé. Non, qui que ça ne va pas, eux, c'est où eux trouvent l'argent. Donc ça, c'est un faux problème. Si on veut creuser, on n'a qu'à dire que bon, absent ici, dire que bon, le chef de l'État le gouvernement n'a qu'à revoir les choses pour que les Togolais puissent manger trois fois. Mais dire que les gens quittent le Togo parce qu'ils ne trouvent pas manger, moi je m'emporte en faux.
D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur Abalo, et pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Appelez-nous et réagissez. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais très bien.
Votre nom, c'est?
Egbeto. Oui.
Pardon?
Merci pour ce que vous nous faites actuellement sur le canal FM. C'est mon grand plaisir. Et sans vous dire ce qui se passe, surtout, un frère avait appelé tout de suite en parlant des trafiquants et la minorité, ceux qui roulent, surtout dans. Dans nos parages ici à Lomé, c'est eux qui créent les incidents, tout ce qui se passe ici à Lomé, et qui sont là-bas de tout cela. Donc, ils n'ont pas. Si vous leur demandez de vous montrer les permis, même ils n'en ont pas. Si vous allez au niveau du pont de Kéguéla, c'est de n'importe quoi. Ils sèment là-bas. Ce n'est pas du tout bien.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, mon cher ami. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour, comment vous allez?
Allô?
Allô, peut-être qu'il n'a pas alors de retour. Michel, nous allons prendre un autre auditeur, puisqu'il n'a pas de retour. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va.
Ali.
Bonjour à vous. Oui. Je dis merci à tous ceux qui prennent le temps de parler du Togo. Ceux qui veulent voir ce qui se passe au Togo et veulent aussi dire ce qui se... C'est-à-dire le contraire, ils ont leur choix. Nous, nous appelons pour pouvoir à la fois dire ce qui nous tient à cœur et aider les autres à comprendre ce qui se passe. S'il vous plaît. Et tout le monde fait partie d'une association. Le règlement intérieur de chaque association prévoit les clauses transitoires. Et c'est à partir de ça qu'on passe de là pour aller dans d'autres règlements intérieurs. C'est pas l'autre, le règlement intérieur nouvellement écrit qui doit agir pour dire que c'est comme ça qu'on va mutualiser. Non, c'est l'ancien qui conditionne le nouveau. Donc, la 4e République, notre constitution, c'est ça son système qu'il a prévu de façon transitoire qui doit agir. Et non, ce qu'on nous impose là, qui doit dire comment on va m'utiliser. Ce qu'on a fait pour nommer l'autre chef d'État Macron et retenir Guelmo, c'est du faux usage du faux et en reculeur. Parce que actuellement, la constitution dont vous parlez n'est pas conforme au désirage des populations togolaises et ceux qui l'imposent font du faux et usage du faux. En dehors de ça, les juristes qui s'accoquinent et pour engloutir et mentir au président de la République qui s'enfonce dans ça, sincèrement, soyons togolais. Le Togo ne veut pas avoir des problèmes, des troubles comme avant. C'est pourquoi nous appelons. Donc, ceux qui disent que c'est déjà fait, on va continuer dedans, c'est faux.
D'accord.
C'est faux, rien. Parce qu'actuellement, à quel titre on a nommé l'autre général la dernière fois? Qui a signé quoi? C'est le conseil le président du conseil des ministres qui a signé ou c'est le président de la République qui a signé.
D'accord.
Si c'est le président de la République, là, c'est l'ancienne constitution. Et c'est l'ancienne constitution qui doit faire valoir jusqu'à un an encore. Ne troublez pas les populations, s'il vous plaît, les journalistes.
Ok, merci beaucoup, oui. Monsieur Ali, merci. 22 21 33 114 91 36 315. Allô.
Bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Comment allez-vous?
Ça va, et votre nom?
C'est Karim le taximan.
Oui, Karim le taximan. Karim, allez-y.
Je sais pas, on n'a qu'à avoir le courage de dire que ça ne va pas dans ce pays. Nous sommes des taximans. Ce qui se passe au Togo, ça ne va pas. Il faut que le gouvernement du fort voie ce qui ne va pas. Ça ne va même pas dans ce pays. Moi, je suis à Clicamé. On coupe le courant à midi. Des fois à midi 30, des fois à 13h. C'est parti pour à 21h. C'est parti pour 20h. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Maintenant, quand on est au travail, jusqu'à on revient la nuit, on ne trouve pas le courant. Des fois, c'est parti pour la matinée. Ça, j'en ai pas. Deuxième des choses, j'accuse beaucoup la DSR. Nous, on a passé le permis avec de l'argent. On a dépensé à l'eau permis, prendre le permis. Maintenant, venir prendre le taxi. Il y a d'autres qui n'ont même pas la naissance, ni carte de l'éther. Et ceux qui conduisent les motos de trois roues là pour nous empêcher. Ils nous ont gâté le travail sur la route de Bagida. Sur Jacques Blé, nous ont gâté le travail. À Gressier, ils nous ont gâté le travail. Et actuellement, ils sont sur la route d'Abitikopé. Et la DSR regarde tout ça, ils n'en parlons même pas. Si c'est nous les taximans, sœur, amène les pièces. Visite technique, seul n'a qu'à partir. Tu vas voir comment tu vas payer tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays pour mériter tout ça?
D'accord.
Qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays? On est Togolais, la cadence Togolais, qui doit se permettre pendant 5 ans, permis pendant 5 ans, ça doit se permettre, un diplôme qui se permet. Et on va le renouveler. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça?
D'accord. Karim, merci, oui, merci beaucoup à vous. Je vous comprends. Allô? Par rapport à votre émotion. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, Didier.
Bonjour, bonjour Pascal. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à mon ami Tadja.
Bonjour.
Oui, monsieur Tadja, comment ça va? Bon, monsieur, la dernière fois, j'ai un jeune de quartier qui est venu me demander, je n'ai pas pu lui répondre, mais si on peut me donner un peu d'explication. Au vu du discours de l'intervention de Bahara, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aura alternance avec la nouvelle constitution? C'est parce que c'est ce qu'on lui avait dit, qu'il y aura alternance pour qu'elle est partie voter. Et puis je voulais demander aussi maintenant, comme il y aura président du conseil et puis président là, la présidence là serait dédiée à qui? Les grosses voitures Maybach, Mercedes Classe G, Lexus, la garde présidentielle seront retournées au président, bien vont rester dans le maître du président du conseil. Voilà ma question.
D'accord, merci beaucoup Didier pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô.
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Niamabo qui revient.
Oui, Niamabo.
Concernant la constitution, je disais tout à l'heure que c'est difficile que. C'est tout court à ça, il se trompe. Quand les gens disent qu'ils ne savent pas si le président a signé le décret, c'est-à-dire en prenant compte de l'ancienne constitution ou bien la nouvelle, mais quand on est dans une phase transitoire comme ça, vous voyez, ça ressemble à la phase transitoire de Mali, Burkina, Niger. Ça dit que c'est un coup d'État déjà consommé. C'est un coup de force. Merci.
Merci beaucoup, Niamavo. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce jeudi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous insérons un autre auditeur. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
C'est pour l'émission.
Oui, allez-y. Votre nom?
Salut le plateau.
Oui, votre nom c'est?
C'est Yaouvi de Guadago.
Yaouvi de Guadago, allez-y.
Ma question va directement à M. Tadja. Quand il disait que peu à Agbo, ils n'ont pas préparé leur succession. Je lui ai demandé si le direct Yadima aussi a préparé sa succession. Le direct Yadima aussi n'a pas préparé sa succession. Quand Yadima est décédé en 2005, on a vu Paul Yacoubé à la CDP venir dire que il va terminer le mandat de son père. Est-ce que nous sommes dans un rang? Nous ne sommes pas dans un rang. Il ne pas venir dire ça à la CDP. Il n'est pas venu dire ça à la CDT, c'est pas normal. Hein? Donc, si vous êtes journaliste là, ne pensez pas que nous, qui ne sommes pas des journalistes, vous êtes intelligents plus que nous.
Monsieur Yaouvi.
Ce qu'il vient dire à la radio là, c'est pas bon.
Monsieur Yaouvi. Monsieur Yaoui, il est parti. Décidément, lui-même, il a répondu quand même à sa question. 22 21 33 114, nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, madame Essi.
Thierry et tout, il vaut mieux, quoi. Et puis, voilà. Est-ce que c'est écrit où, là, dans la Constitution, que un régime doit fatiguer son peuple dans les débats stériles toute la vie? Et puis passer au dépend du développement. C'est écrit où là-bas? C'est écrit nulle part qu'on doit passer notre vie à débattre sur ce qui n'est pas vrai, ce qui est irréel. On a des lois de la République qui disent 5 ans là, un mandat de 5 ans là. Tu passes la main pour que Pascal, Kamza, tout le monde gouverne et gouverne en bien une République qu'on s'est donnée. Mais ça suffit, non? Hein? Comment se fait-il que les lois qu'on a, les gens vont s'organiser à les charcuter à volonté, personne ne leur dit rien jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cet état-là? Hein? C'est pas normal. Et puis ceux qui font ça, là, ils n'ont pas une conscience pour dire qu'ils fatiguent. Tu fais plus d'un mandat, tu fatigues un peuple. Un mandat de 5 ans, là, Macron l'a fait, le peuple français qui est mieux déchaîné que nous, le seul peuple est déjà fatigué. Et mais nous, là, ça fait 12 mandats de 5 ans, les gens n'ont qu'à comprendre qu'ils doivent passer la main, quoi, la semaine prochaine. Moi, je le demande au Saint-Sacrement. Tous les dimanches, je demande ça au Saint-Sacrement, de leur toucher le cœur, de passer la main à l'opposition pour qu'on soit bien. Merci.
D'accord, merci beaucoup, madame Essi. Je pense que madame Essi, c'est la dernière auditrice hein, pour le compte alors de cette émission de ce jeudi. Nous revenons en plateau, chers confrères. Michel, oui. Vous avez écouté les uns les autres. S'il y a même Didier également qui vous a interpellé sur une question, et si vous avez à répondre, qu'est-ce que vous avez dit?
Il dit, comme il y aura président de la République, est-ce que les... je ne sais pas comment on dit ça... Les véhicules utilisés actuellement par le président de la République vont revenir au nouveau président de la
République. Oui, oui. La première question, c'est d'abord de savoir s'il y aura l'alternance, puisqu'il y a un jeune qui l'a abordé avec la question, que est-ce qu'il y aura alternance.
Mais si on regarde la nouvelle conscience, c'est qu'il y aura un nouveau président. Ça, c'est d'office. Mais je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui le poste là va... être destiné, c'est pas c'est à qui ça va être destiné. Ça dépendra des discussions politiques qui vont en tout cas s'en suivre juste après la nomination ou bien la désignation du président du Conseil des ministres. Mais maintenant, par rapport au véhicule, je pense que c'est il n'a qu'à voir où le pouvoir reste, où le Conseil n'a qu'à lire la Constitution, il verra le pouvoir réel, c'est où le pouvoir réel sera là. Bon, lui-même va tout. Trouver la réponse à sa question. Voilà.
D'accord.
Mais maintenant, par rapport à celui, l'avant-dernier, donc, intervenant, qui me dit.
Yaoui de Badago.
Est-ce que le président Yadema avait aussi préparé, est-ce que lui aussi l'avait préparé
sa
succession? C'était le RPT à l'époque. Je ne faisais pas partie du RPT, je ne sais pas comment ça s'est organisé à ce niveau-là, c'est ce que je peux lui dire. Mais donc, de toutes les façons, ce qu'il dit, que Faure Gnassingbé est venu dire à la télévision qu'il va terminer le monde, je pense, nous avons les images, c'est les forces armées togolaises qui l'ont choisi, compte tenu de l'urgence, le président de l'Assemblée nationale à l'époque qui était hors du pays, c'est une urgence que les forces armées togolaises ont voulu gérer à l'époque. Donc, lui-même, il a vécu cela, donc je n'ai pas quelque chose à lui dit par rapport à cela. Mais maintenant, quand il dit que si on vient dire ce qu'on vient de dire là à la radio Simba, je pense qu'il écoute, il est militant, hein, certainement. Et bon, quand il écoute certaines informations qui ne vont pas dans le sens où il souhaiterait, ça lui fait mal. Bon, qu'il en souffre, que d'autres confrères aussi viennent dire des choses aussi qui mettent mal à l'aise d'autres auditeurs. Donc, c'est comme ça, la liberté d'expression.
D'accord. Et là,
j'ai écouté tout le monde, tous les auditeurs. En réalité, comme on a l'habitude de le dire, les journalistes ne sont pas détenteurs du savoir. Il peut arriver que des journalistes se trompent. Il y en a partout dans le monde. Même RFI fait des erreurs, France 24. Mais en réalité, les auditeurs sont là aussi pour ça. Les téléspectateurs sont là pour ça. pour rétablir une certaine vérité, pour rappeler véritablement que non, sur ce truc, vous êtes tombé. C'est pas encore quelque chose de mal en soi. Donc, en réalité, je crois quand même qu'on est tous Togolais. Mais chacun est libre d'avoir son avis. Et je crois qu'à un moment donné, les tensions ou les échanges qu'il peut y avoir, même si la voix monte un peu, ça participe au débat, en réalité. Ça peut arriver. La dernière fois, vous avez suivi sur TV5 Monde comment le débat était où entre le ministre Gilbert Bahara voilà, de l'opposition. Justement. Donc, le temps était monté. Donc, tout ça, ça participe de la vitalité. C'est un débat. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je profite pour dire quelque chose que je n'ai pas dit dans l'émission. C'est par rapport aux artisans. Les couturiers, les maçons, les menuisiers et tout. Mais il y a un problème qui se développe maintenant à Lomé. On vous remet de l'argent pour faire le travail. Vous bouffez l'argent, vous ne faites pas le travail. Couturier, tailleur, couturier,
menuisier,
maçon, électricien.
Les artisans.
Mais tous les artisans. On vous fait confiance, on vous remet. Peintre, on vous remet de l'argent, vous ne faites pas le travail. Après, c'est fou, vous dites que le Togo va mal. Mais je ne peux pas comprendre ça.
On vous donne
de l'argent.
À s'en saisir du dossier.
On vous donne de l'argent, par exemple. On a des amis dont des frères ou des frères sont des entrepreneurs, ils sont des peintres, ils sont des maçons. Mais il y a des gens à l'extérieur, on vous remet de l'argent pour dire construisez-moi une maison, deux chambres, salon. On bouffe tout l'argent. Parce qu'on est des amis, on vous fait confiance, on bouffe tout l'argent.
Et la personne revient, la personne revient, nous retrouve.
Et après on est là. Non mais c'est quelle mentalité ça?
Mais c'est pas tous, hein.
Mais c'est pas tous. Oui, bon, j'ai dit, il y en a. J'ai pas dit que tout ça comme ça. Regarde, même les couturiers aujourd'hui, les tailleurs, victimes, ça. Les tailleurs, vous leur remettez des.
Les tailleurs, ça, c'est un autre cas. Mais chacun de nous peut-être en était aussi victime.
Mais aujourd'hui, je dis que ça se développe trop. Vous leur remettez de l'argent, ils ne vous font jamais votre.
Et vous serez au moins 4-5 ans à se retrouver devant le tailleur, là. Soit c'est le palu, ou soit l'électricité. Actuellement, quand l'électricité, là, c'est la raison principale.
Et maintenant. Quand vous finissez, franchement, et après, c'est le même qui vient vous dire que le Togo va mal. Bon, je veux
véritablement qu'on puisse... Effectivement.
Oui, non, Ambrase, je fais juste cette analogie pour que les gens comprennent ce que je
tout
dis.
Tout à fait.
Vous comprenez?
À
un moment donné, il faut que les gens soient sérieux.
Ils ne sont pas, les gens ne sont pas sérieux.
Il faut que les gens soient sérieux. Je suis vrai dans ce que je suis en train de dire. Parce qu'à un moment donné, il faut que... Moi par exemple, mon propre, je ne l'appelle plus. Il y en a, des gens sont victimes, de plusieurs tailleurs, de couturiers, tout ça là. Vous remettez le panne,
maçon là. Maçon, c'est le
fil de ciment et des fils de fer.
Donc, pardon, il faut que la chambre des métiers se saisisse de ce problème pour que définitivement on tourne la page.
Merci beaucoup, Elom.
Tu sais, je vais. Tu sais, il y a un monsieur, il est spécialisé dans le vol. C'est un maçon, c'est un chef maçon. Il vole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit sa maison sur le vol des matériaux des gens à qui il a construit. Au point que, tu sais, dans la vie, la nature perd. Il a volé, même les apprentis aussi l'ont suivi, ils volent. Quand tu achètes 10 ciments, ils font tout pour faire disparaître 3 ciments. Ce que je vous dis là, c'est moi-même, j'en ai été victime. Et le monsieur là, actuellement là, il sent que sa maison est en train de s'écrouler. Non, je ne l'imagine pas. C'est tout comme, c'est sérieux. C'est tout comme un monsieur qui s'est levé un matin pour enterrer la Bible, sous la construction d'une église. Ça ne fait pas deux semaines l'église, c'est un erreur vers un erreur. L'église s'est écroulée. C'est juste un exemple, ça c'est spirituel. Parce qu'on n'enterre pas la parole de Dieu. Ça c'est juste. Quand vous volez là, la nature retourne ça. Bon, maintenant je vais.
Oui, rapidement.
Il faut en disant que nous sommes dans une logique. Qu'est-ce que le peuple togolais veut? Qu'est-ce qu'il faut pour ce Togo, pour que le Togo aussi soit comme les autres pays qui émergent, qui se développent? C'est ça que nous défendons tous les jours que Dieu fait. Nous le sommes, moi je suis, je n'ai pas de cadre d'un parti politique, dans aucun, ni de l'opposition, ni du pouvoir, depuis des lustres. Et je me dis que si un parti politique venait à faire un virage vers la droite, ah, il ne me retrouvera pas. Nous sommes de la gauche. La gauche, c'est qui? C'est ceux-là qui défendent le pays, le peuple. Ouais.
D'accord. Ok, merci beaucoup Ambrase d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission, Michel. Ça fait toujours plaisir de vous avoir aussi dans cette émission.
Oh, c'est avec plaisir.
Justement, Elom, merci à toi d'être passé dans cette émission. Merci, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Akuta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain pour une émission spéciale que nous n'allons pas animer ici, mais ce serait délocalisé. Nous serons seront alors à Vaughan pour une émission la radio du littoral, bien sûr avec Waka. Merci alors de nous recevoir. On se retrouve alors demain. Au revoir.